nous sommes le 26 janvier 2022. Tout de suite, les titres de votre journal. Il est présenté par Christine Roth. Bonjour Christine.
Bonjour Béni, bonjour à tous. Nous écouterons Vincent Fabre, le directeur général de la CPS, faire un point sur la santé de la protection sociale généralisée. Nous parlerons de la sortie de deux magazines économiques annuels, l'économie polynésienne et le Dixit. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, nous vous ferons découvrir les NFT et la nouvelle œuvre virtuelle de Chronos.
Et un jour noir pour une résidence de Punaouia.
Deux appartements sont partis en fumée ce matin à Taapuna. Les pompiers sont arrivés sur place un peu avant 8h et ont maîtrisé l'incendie. Aucune victime n'est heureusement à déplorer, mais les occupants ont toutefois été transférés au CHPF pour inhalation de fumée. Dure matinée pour la résidence puisqu'une heure et demie plus tôt, c'est une voiture qui faisait une chute de plusieurs mètres. Sa conductrice, une soignante de retour de garde, se serait endormie au volant. Blessée au visage, elle a également été transportée au CHPF.
Et puis une question... Christine, pour continuer, comment se porte la CPS ?
Oui, après presque 2 ans de crise sanitaire, c'est effectivement une question qui se pose, notamment du côté du CESEC. Le Conseil économique et social avait donc invité hier le directeur de la CPS à faire un point sur les finances de la protection sociale généralisée. Et de prime abord, les nouvelles sont plutôt bonnes. Après l'effondrement des cotisations en 2020, elles se sont progressivement consolidées, entre autres grâce aux aides publiques. Avec près de 58 000 équivalents temps plein, le régime des salariés approchait même en novembre 2021 du nombre de cotisants de l'avant-crise. Si la reprise se poursuit, la pente devrait être complètement remontée d'ici quelques mois. Mais Vincent Fabre préfère prévenir, ces bons chiffres ne sonnent pas la fin de la crise des régimes sociaux.
Ce qui est important de rappeler, c'est que dans l'intervalle entre 2019 et 2021, les dépenses ont largement continué à progresser. Elles ont été sur un niveau d'augmentation important, en partie à cause de la gestion de la crise sanitaire, mais aussi en partie en raison des problèmes structurels liés au vieillissement de la population et liés à une population en moyenne malade au travers des longues maladies et de toutes les maladies comportementales.
Des problèmes structurels toujours présents et surtout des déficits toujours importants puisque le conseil d'administration de la Caisse a voté des budgets 2022 en déficit cumulé de près de 9 milliards de francs. Pour combler ce fossé, la CPS attend la CPS. C'est le sigle officiel de la contribution pour la solidarité, la nouvelle taxe un temps appelée TVA sociale et qui doit permettre au pays de lever une douzaine de milliards de francs par an à partir d'avril. Un renflouement nécessaire mais qui n'enlève rien à la nécessité des réformes de fonds.
C'est bien cette contribution pour la solidarité à partir du 1er avril qui sera injectée dans les grands équilibres de la PSG et permettra effectivement de combler le déficit constaté. Reste maintenant à réformer la PSG dans son contenu, dans ses textes, obtenir dans les prochaines années un meilleur pilotage et une meilleure maîtrise des dépenses de santé et de retraite. C'est le travail qui doit être fait dans le cadre des Assises de la Santé sur ce premier semestre 2022. Et pour les autres branches, c'est le travail qui va être dévolu au comité stratégique qui doit s'installer et se mettre en place dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Vincent Fabre, le directeur général de la Caisse de protection sociale, était au micro de Charlie René.
Et une amende à 80 000 francs et des élus concernés, c'est ce qu'a confirmé Édouard Fritsch hier.
Après plusieurs semaines d'interrogations et alors que les contrôles battent leur plein, Édouard Fritsch a voulu être clair mardi matin sur le montant de la sanction à l'encontre des travailleurs qui ne se conformeraient pas à la loi sur l'obligation vaccinale. Le texte de loi parle d'une amende administrative de 175 000 francs et c'est aussi cette somme qui figure sur les procès-verbaux déjà dressés par l'ARAS. Sauf que le président du pays s'était engagé à modérer cette amende et qu'il est bien décidé à tenir parole.
Effectivement, avec les syndicats, ça aurait facilité mon travail. J'ai proposé à ce qu'il apparaisse dans le protocole d'accord, mais ils n'ont pas souhaité. Donc, je prendrai les moyens pour que cette amende soit de 80 000 francs. 175 000, c'est ce qui est dans la loi actuelle. C'est un maximum, effectivement, qui peut être appliqué. Mais j'ai décidé que ce soit 80 000 francs et ce sera 80 000 francs. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, la personne qui reçoit une amende à payer de 175 000 francs, je lui conseille d'attendre de payer 80 000 francs. En d'autres termes, je tiendrai ma parole jusqu'au bout.
Autre question qui a animé le débat public et autre point de divergence avec le discours de l'ARAS, l'inclusion des élus et des ministres dans l'obligation vaccinale. Interrogé sur l'absence de sanctions à l'encontre de Théari Alpha, toujours membre du gouvernement, et Gaston Tongsang, ouvertement réticent à la vaccination, Édouard Fritsch répond qu'il n'y aura pas de distinction et qu'ils seront sanctionnés comme les autres. Concernant l'impossibilité pour Gaston Tongsang de prendre l'avion depuis Bora Bora pour venir honorer ses fonctions à l'Assemblée une fois que le pass vaccinal sera entré en vigueur, il restera chez lui, que voulez-vous que je vous dise, a déclaré le président du pays.
Et les deux magazines annuels consacrés aux questions économiques lancent leur numéro 2022.
Alors bien évidemment, les répercussions de la crise sanitaire, mais surtout l'avenir du pays en sont les principaux sujets. Du côté de l'économie polynésienne, l'objectif est d'expliquer les grands enjeux économiques à travers des articles de fond et des chiffres clés. Cinq thèmes ont retenu l'attention de la rédactrice en chef, Alexandra Sigourneau-Fourny. Parmi eux, entre autres, l'après-Covid avec un virus qui a envoyé tout un système aux urgences, l'innovation maritime ou les questions de succession.
Les objectifs de l'économie polynésienne, c'est d'abord d'expliquer les enjeux économiques et sociétaux de la Polynésie. On le fait toujours à travers des thématiques qui sont ciblées. Et puis on essaye aussi de mettre en avant des secteurs d'activité peut-être peu connus ou moins connus, de présenter des entreprises polynésiennes et leurs projets. On essaye de varier un petit peu les informations autour de l'économie et pas forcément celles qui sont les plus visibles.
Du côté du Dixit, on retrouvera des informations pratiques sur le fonctionnement des institutions du pays et de l'État et les dispositifs mis en place dans un cahier spécial « Entreprendre et investir ». Au sommaire également, un dossier phare que nous présente Dominique Morvan, la fondatrice du magazine.
Le dossier phare du Dixit, ça reste le tableau des 200 premières entreprises, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en nombre d'employés, car ça donne une photographie de l'économie du pays. Et ce dossier, il est décliné sur plusieurs secteurs. On prend les premières entreprises du bâtiment, les premières entreprises du commerce et ainsi de suite. Et ça donne une très bonne photographie, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels d'une manière générale.
L'économie polynésienne est en vente depuis aujourd'hui. Quant au Dixit, il est en ligne sur Calameo. Vous le trouverez en magasin le 5 février.
Et Chrono se lance dans l'art virtuel.
Après une première série d'une quinzaine d'œuvres, Chronos vient d'en remettre une nouvelle en ligne sur la plateforme OpenSea, un cœur palpitant dans lequel se dessine un crâne. Bienvenue dans un monde virtuel assez nouveau pour la Polynésie française, celui des NFT. Les Non-Fungible Tokens, en anglais, sont des données virtuelles représentant un objet identifié grâce à la blockchain. Chronos ne poste pas ses œuvres virtuelles, il les mint, un autre terme anglo-saxon utilisé dans le secteur des crypto-monnaies et des NFT pour parler du processus de création. Pour l'artiste, c'est un nouveau moyen de créer, mais aussi de gagner sa vie.
En fait, moi, je prends les NFT comme un nouveau support artistique, tout simplement. Parce que bon, je suis un artiste avant tout, parce que le monde des NFT, c'est super vaste. Tu peux faire énormément de choses avec. Mais moi, en tant qu'artiste, en fait, je le prends vraiment comme un nouveau support, un nouveau médium, voilà, un nouveau moyen en fait, de créer, tout simplement. Exactement comme une création physique, un tableau, c'est de pouvoir les vendre, tout simplement. Mais aussi, par exemple, là, ma première collection, je les fais gagner, je les distribue. Voilà. Je le prends vraiment comme un nouveau support.
Chronos est un des rares artistes polynésiens à s'être lancé dans ce genre d'exposition. Pour certains, c'est un mode pour des spéculateurs, mais pour lui, les NFT font partie de l'avenir de l'art.
J'aime tout ce qui est basé sur la blockchain, voilà, les crypto-monnaies, les NFT, voilà, j'aime ça déjà à la base. Donc du coup, voilà, ça me permet de lier mon activité artistique avec la crypto et tout, quoi, dans ce monde-là. Donc les NFT, pour moi, voilà, ça lie les deux. Ça existe maintenant au jour d'aujourd'hui, donc j'en profite et c'est fun, quoi.
Pour se faire connaître dans le milieu, Chronos s'est créé un compte Twitter et a lancé un jeu pour faire gagner une de ses œuvres NFT. Toutes les informations sont à retrouver dans l'article de Lucie Rabréau sur radio1.pf. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera avec le flash de 16h présenté par Caroline Perdry.
Merci beaucoup.